si il y avait dans la Bible seulement des textes comme Jean 3,16, ce serait formidable. On comprendrait tout, tout de suite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si toute la Bible était comme ça, ce serait formidable, on comprendrait tout, tout de suite, sans problème. Peut-être aussi qu'on en ferait vite le tour de la Bible. Et heureusement qu'il y a aussi des textes un peu plus compliqués, qui nous résistent un petit peu, et qui recèlent souvent des pépites et des trésors cachés. La semaine dernière, je vous ai proposé, pour ceux qui étaient là, de lire le début du dernier chapitre de la Bible. Puisque avant mes vacances, j'avais fait une petite série de 3 prédications sur le premier chapitre de la Bible. Je me suis dit qu'avant la rentrée, puisqu'on avait 3 dimanches à partir du dimanche dernier, on pourrait faire une petite série sur le dernier chapitre de la Bible. Apocalypse, chapitre 22, qui était le début de ce chapitre, c'était la vision, la fin de la vision de la Jérusalem nouvelle. Je vous propose de poursuivre la lecture et de lire à partir du verset 6, Apocalypse 22, nous lirons les versets 6 à 15. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je suis tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour me prosterner devant lui. Mais il me dit, garde-toi de faire cela, je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, prosterne-toi devant Dieu. Puis il me dit, ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore. Que le juste fasse encore la justice, et que celui qui est saint soit encore consacré. Je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Je vous avais averti. C'est un texte un peu touffu, voire même un peu déconcertant. Je ne sais pas si, à la lecture, vous avez toujours bien perçu qui était en train de parler. Eh bien, c'est pas évident. Essayez de relire ce texte et vous dire qui parle. Est-ce que c'est l'ange? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jean? On ne sait pas toujours exactement qui parle. Et ça peut créer un sentiment étrange, peut-être, à la lecture de ce texte. D'autant que, une fois qu'on arrive plus ou moins à identifier qui parle, il reste quand même dans ce texte des choses un peu bizarres. Je propose d'en souligner 3. Il y en aurait peut-être plus encore. Mais au moins 3 éléments bizarres et d'essayer de nous dire mais qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre. Le premier élément bizarre, c'est l'adoration d'un ange. Jean, qui a reçu ses visions de la part du Seigneur, parle entremise d'un ange. Ici, à la fin de ses visions, se met à se prosterner, se mettre à genoux et adorer l'ange qui lui a fait ses révélations de la part de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est pas seulement que Jean se prosterne devant l'ange, c'est qu'il le mentionne ici. On aurait pu se dire, bon d'accord, il s'est trompé. Jean, il s'est prosterné devant l'ange. Mais pourquoi est-ce qu'il nous en parle ? Pourquoi est-ce qu'il l'écrit dans l'Apocalypse « Je me suis prosterné devant l'ange » et l'ange m'a dit « Non, ne fais pas ça ». C'est bizarre quand même. Alors, C'est vrai que ça traduit sans doute la confusion dans laquelle Jean pouvait se trouver lui aussi. On a dit que pour nous, ce n'était pas forcément évident de savoir qui parle. Peut-être que ce n'était pas si évident que ça pour Jean non plus. Lorsqu'il recevait ses visions, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment tout compris ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Et un sentiment un peu de confusion a pu le pousser à faire quelque chose qui était pas très orthodoxe, un peu regrettable, se prosterner devant un ange. D'autant que ce n'est pas la première fois. Au chapitre précédent, chapitre 19, verset 10, Jean fait la même chose. Devant le même ange, il se prosterne devant lui. Et l'ange, à ce moment-là, lui dit pratiquement la même chose, mot pour mot. Mais pourquoi est-ce que Jean le mentionne dans son livre, à deux reprises? Est-ce qu'on peut se contenter de dire « c'est pour rendre le texte vivant et pour montrer qu'il était lui-même un peu dans la confusion » Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi une mise en garde que Jean veut faire aux lecteurs que nous sommes en disant « attention, peut-être que vous aussi, vous pouvez vous tromper. Peut-être que vous aussi, vous pouvez ne pas adorer Dieu seul, mais en adorer d'autres. Alors faites attention. C'est Dieu que l'on adore et pas son messager. » C'est ce que souligne l'ange. Il dit « moi, je suis comme toi. Je ne suis pas un humain, je suis un ange. Mais comme toi, je suis au service de Dieu. Je suis compagnon de service avec toi, avec les prophètes et avec tous ceux qui retiennent les paroles de ce livre, avec tous les croyants, avec tous les chrétiens. On est au même niveau. » Donc, même celui qui est porteur d'un message, aussi puissant soit-il, s'efface devant celui qui est à l'origine du message, devant le Seigneur. C'est Dieu qu'on adore, pas son messager, et encore moins son message. Et si on pouvait voir ici, peut-être, une petite mise en garde contre les intégrismes théologiques, trop souvent présents, particulièrement en matière d'eschatologie. Vous savez, les questions des choses de la fin. Et notamment dans les milieux évangéliques, depuis bien longtemps, on aime se taper dessus à coups d'arguments eschatologiques sur le retour de Jésus, sur ce qui doit se passer, sur l'interprétation des prophéties. Et puis on jette des anathèmes sur ceux qui ne pensent pas comme nous ou qui n'ont pas le même schéma d'interprétation que nous, ou n'ont pas le même schéma des événements qui doivent précéder le retour du Seigneur à telle date, à tel moment. Et il y a des véritables intégrismes théologiques où on en vient presque à se centrer sur le message en oubliant l'essentiel, adorer Dieu en tant que serviteur, compagnon de service de tous ceux qui nous ont précédés et de tous ceux qui nous suivront encore. Il était sans doute salutaire pour Jean de rappeler cet essentiel. Dans l'attente du retour du Seigneur, qu'est-ce qui est l'essentiel? De nous conduire en serviteur de Dieu en l'adorant. Cette bizarrerie de l'adoration de l'ange est donc peut-être là pour nous interpeller. Que dire alors de cet étrange appel du verset 11? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice, et que celui qui est saint soit encore consacré. On a là un magnifique appel à ne rien changer. C'est bizarre. On aurait mieux vu ici, quand même, dans la Bible, un appel du genre « que celui qui est injuste se repente, que celui qui est sale se purifie ». Ce serait quand même plus en accord avec l'Évangile. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on a au verset 11. « Que celui qui est injuste reste injuste, que celui qui est sale continue à se salir ». C'est bizarre. On a l'impression, avec cet appel, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, que tout ne pourra plus rien ne pourra bouger. Le méchant reste méchant, le bon reste bon. Bizarre. Bizarre comme appel. C'est évidemment une formule un peu provocante, comme on en trouve parfois dans l'Écriture, et qui est là pour provoquer en nous une réaction. Quelque part, si on avait eu comme appel que celui qui est injuste se repente, voilà, on dit, bien sûr, on a déjà lu ça, et puis on passe à autre chose. Mais là, ça nous dérange un petit peu. Et ça crée en nous un sentiment, un certain malaise, de dire, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Et peut-être y a-t-il derrière cet appel paradoxal une volonté de créer chez le lecteur, chez l'auditeur de ce texte, ce qu'on pourrait appeler un sentiment d'urgence. Ah bon, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Est-ce que c'est vraiment trop tard? Est-ce qu'on ne peut pas encore faire quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un petit espoir de changer ou de faire changer les choses encore? Ce sentiment d'urgence, c'est une constante dans le Nouveau Testament quand on aborde la question du retour du Seigneur. Vous savez, les paroles de Jésus, le Seigneur viendra comme un voleur au milieu de la nuit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et tout ça crée ce sentiment d'urgence. On dit, mais on ne sait pas, il peut venir d'un moment à l'autre. On ne s'y attend pas. Et cet appel paradoxal ici entretient ce sentiment d'urgence qui est important pour être dans une attitude de cœur juste dans l'attente du retour du Seigneur. Pourquoi ? Quand on est dans l'urgence, on ne dort pas. Si vous êtes dans la routine tranquille, vous allez vous assoupir tranquillement dans votre fauteuil. Si vous êtes dans l'urgence, c'est le coup d'adrénaline qui fait qu'on reste éveillé et peut-être même parfois on se surpasse ou on fait des choses qu'on ne pourrait pas faire par ailleurs, mais ce sentiment d'urgence nous garde éveillés, nous empêche de dormir. Et c'est peut-être là un autre élément important dans cette perspective du retour du Seigneur, rester éveillé. Rester dans l'urgence, l'urgence parce qu'un jour il sera trop tard, pour nous ou pour les autres. Et dans l'attente, à cause de ce jour qui peut venir, soyons dans l'urgence du service pour le Seigneur et pour notre prochain. Un des pires dangers soulignés dans les lettres aux sept églises au début de l'Apocalypse, c'est la routine, c'est la tiédeur. En soulignant ce caractère d'urgence, l'Apocalypse veut nous tenir en éveil. Et puis j'enchaîne rapidement encore sur la troisième bizarrerie de ce texte. Et oui, qu'ils ont quand même des choses à nous enseigner, à nous dire. C'est cette malédiction qu'on trouve au verset 15. C'est comme ça que se terminait le passage que je proposais jusqu'à aujourd'hui. Alors c'était un petit peu une fin abrupte, je suis bien d'accord. Verset 15. « Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. » Dehors. Alors c'est vrai qu'il y a une béatitude juste avant, hein, verset 14. C'est « Heureux ceux qui lavent leur robe, etc. » Et ça, ça nous va bien. Heureux, ça nous va. Dehors, ça nous va moins. Alors on se dit, mais bien sûr, mais c'est pas pour nous. C'est pour les autres. C'est pour ceux du dehors, c'est pour les incroyants, pour les impies, pas pour nous. Pour qui est écrit l'Apocalypse ? Pour ceux du dehors, pour les incroyants, pour qui est écrit l'Apocalypse ? Pour qui est écrit ce livre ? Ben, c'est redit explicitement au verset 6. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Les esclaves du Seigneur, ce sont ceux qui lui appartiennent. Les versions plus anciennes traduisaient simplement les serviteurs, mais c'est gentil les serviteurs. Mais les esclaves, dans le contexte de l'époque, un esclave, il appartient à son maître. Donc les chrétiens sont des esclaves du Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Et c'est donc pour les chrétiens, pour les croyants que nous sommes, que l'Apocalypse a été écrite. Donc, cette malédiction nous est adressée. Dehors, les chiens, etc. Alors, évidemment, attention, il n'est pas en train de. L'Apocalypse n'est pas en train de nous dire que tous les chrétiens sont des chiens, des sorciers, des. Ah, ce serait terrible. Donc, on va dire que il ne faut pas idéaliser, hein, ni les chrétiens ni l'Église. J'espère que vous n'êtes plus à ce stade de l'idéalisation des chrétiens et de l'Église. Bon, votre pasteur, vous pouvez l'idéaliser un petit peu, ça va. Mais pour les autres, non. Hein? Sans être forcément les plus hypocrites et les pires de tous les humains, avouons qu'il y a toujours quand même en nous une part de mal à extirper. Des pensées, des paroles, des actes qui n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Dehors ces pensées, ces paroles et ces actes. Hors de nous, hors de notre cœur. Sortons-les de nous. Ne nous en accommodons pas. C'est un petit peu peut-être cela le sens de cette malédiction qui nous dérange si on se sent nous-mêmes un peu interpellés. Évidemment, ça ne nous dérange pas si on pense que c'est pour les autres. Mais si on réalise que c'est peut-être un peu pour nous aussi, c'est à nous de nous demander qu'est-ce qu'il faut encore sortir de notre vie. Qu'est-ce qu'il faut encore que le Seigneur éjecte de notre cœur. Qu'est-ce qui n'a pas sa place dans notre cœur parce que ça n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. L'inconfort de lecture de ce passage réside dans ces bizarreries un petit peu provocantes qui sont là justement pour nous faire sortir peut-être d'une routine ou d'une torpeur dans laquelle il est facile de tomber. Et cette malédiction ici est là aussi pour nous garder de l'orgueil de penser d'être hors d'atteinte, d'être toujours sans reproche, de nous préserver des fausses sécurités et des évidences illusoires, mais de nous garder dans un esprit d'humilité devant le Seigneur. Ça, c'est la juste attitude du cœur dans l'attente du retour du Seigneur. Alors, voilà, simplement pour conclure, la lecture de la Bible, elle ne procure pas toujours la joie et la bonne humeur. Il y a certains textes qui provoquent d'autres sentiments en nous, qui nous résistent un peu, qui parfois nous interpellent, créent même parfois un petit malaise de lecture. C'est parce que la parole de Dieu ne nous caresse pas toujours dans le sens du poil. Bien sûr qu'on a besoin d'être fortifié, d'être encouragé, d'être consolé. Et il y a beaucoup de textes de l'Écriture qui sont là pour ça, pour nous encourager, pour nous raviver notre espérance. Mais il y en a d'autres qui sont là aussi pour nous interpeller, parfois pour nous reprendre, pour nous réveiller et pour nous remettre sur un droit chemin. C'est un peu le cas de ce texte un peu bizarre de ce matin. En nous rappelant que l'essentiel pour nous est toujours d'adorer Dieu seul, nous qui sommes ses serviteurs. De nous rappeler aussi que dans l'attente de son retour, nous devons rester éveillés et humbles, deux qualités essentielles de celui qui attend le retour du Seigneur. Éveillés, alors que nous risquons facilement de nous endormir dans la routine, humbles, parce que parfois peut-être nous pouvons nous croire hors d'atteinte. Alors, bizarre ce texte, peut-être, mais surtout stimulant. Stimulant pour nous inviter à adopter une juste attitude de cœur dans l'attente du retour du Seigneur. Amen.